Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est donc le club des idées du grain. Ce soir, vivons-nous une crise gouvernementale ou une crise de régime ? En quittant le ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb aura au moins fait des heureux les titreurs de Libération. Véritable festival du journal avant-hier. Le gag du Lyonnais, le jour où Collomb s'est expulsé lui-même. L'Élysée touché dans son fort intérieur. À Beauvau, ça part à volo. Et en une, on y voit l'ancien ministre Hilar comme s'il venait de faire une bonne blague à Emmanuel Macron. Alors, pas sûr que celui-ci apprécie cette nouvelle crise après le départ de Nicolas Hulot, fragilise le chef de l'État, qui voit ses efforts de modernisation et de recomposition politique considérablement entravés par cette succession de couacs. Mais il faut en la matière avoir un peu de mémoire. François Hollande, son prédécesseur, fut confronté à de nombreuses crises, atteignant sa fonction, tout comme Nicolas Sarkozy avant lui. Dès lors, on peut se demander ce qu'il y a de structurel dans celle-ci, au-delà de la façon qu'a chacun d'exercer le pouvoir. Alors, crise gouvernementale ou crise de régime ?
Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la permanence de l'État.
C'est toujours avec beaucoup de regrets que l'on quitte le ministère de l'Intérieur.
J'espère que rapidement, ils vont retrouver la boussole. Parce que le sentiment que ça donne, in fine, c'est qu'ils sont plus d'accord sur ce qu'il faut faire.
C'est un petit peu déstabilisant, c'est peut-être une défiance envers M. Macron.
Il est parfois bon aussi de savoir être maître des horloges.
Il y a aujourd'hui un président qui n'est plus en capacité, y compris, de convaincre ses propres ministres de le soutenir et de travailler avec lui.
Qu'on ne prétende pas gouverner la France, ni même la présider, si l'on n'est pas prêt aux déferlantes et aux vents contraires.
Jupiter est tombé de l'Olympe.
C'est une crise institutionnelle au sens où nos institutions concentrent trop de pouvoir dans les mains du président de la République.
Je vais jusqu'au bout de la logique qui me paraît être finalement celle de la Ve République dans sa modernité, c'est-à-dire que le président de la République doit être le seul chef de l'exécutif. Donc plus de Premier ministre et un président de la République, forcément le chef de la majorité.
Ouais, peut-être aurez-vous reconnu dans ces extraits de cette nouvelle semaine folle en politique, Édouard Philippe, Jean-Christophe Lagarde, Olivier Faure et François Hollande. Semaine folle signée par Alexandre Fougeron et dont nous allons donc discuter ce soir en compagnie de trois des membres du club. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
La suite dans les idées tous les samedis à 12h45 sur France Culture et le site AOC. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue et enseignante à Sciences Po et Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir.
Le tour du monde des idées du lundi au vendredi à 11h53 dans Culture Monde sur France Culture. Gérard Collomb, voilà, je cherchais son prénom, vous voyez, j'ai déjà oublié. Il est parti, Gérard Collomb qui démissionne.
Vous êtes pas lyonnais. Hein.
Voilà, une démission qui suit évidemment celle de Nicolas Hulot. Il y a eu l'affaire Benalla, il y a eu un certain nombre d'autres couacs. Comment est-ce que vous expliqueriez déjà cet enchaînement de crises dans la Macronie, Sylvain Bourmeau ?
Il y a une surprise quand même. Ça s'accélère, c'est le moins que l'on puisse dire en cette rentrée. Certes, un Premier ministre d'État avait été contraint de quitter très rapidement le gouvernement, on s'en souvient, François Bayrou. C'était un ministre d'État, et c'était plus qu'un ministre d'État, c'était le chef d'une formation politique alliée à Emmanuel Macron. J'y reviendrai parce que ça me semble important. Là, on a vu deux autres ministres d'État quitter le gouvernement en moins d'un mois. Nicolas Hulot, puis Gérard Collomb.
Pour des raisons, c'est leur plein gré, ils ne sont pas contraints.
Et pour des raisons différentes. L'un et l'autre, si l'on en croit leurs explications à l'un comme à l'autre. Je crois que pour répondre à la question que vous posez, crise gouvernementale, crise de régime, j'ai envie de dire les deux. C'est-à-dire qu'on peut comprendre ce qui se passe, à mon sens, là, que si d'un côté on le replace dans une perspective extraordinairement longue, la façon dont Nicolas Sarkozy a habité la fonction présidentielle, la façon dont François Hollande, en partie en réaction à Nicolas Sarkozy, mais pas que en réaction à Nicolas Sarkozy, s'y est glissé, et puis la façon dont Emmanuel Macron a bénéficié d'un certain état des institutions pour opérer une OPA sur la vie politique française. Et ce dont on s'est aperçu au bout de 18 mois, puisque c'est le temps qu'il a fallu, c'est que si la vie politique française, ou la politique professionnelle plutôt, était à ce point vermoulue qu'elle permettait cette OPA, qu'elle permettait à quelqu'un surgi hors des partis de gagner l'élection qui structure toute la vie politique française, l'élection présidentielle, eh bien, la conséquence logique n'était pas que cette personne aussi forte soit sa victoire, soit capable, une fois élu, de gouverner de façon durable. C'est-à-dire qu'au fond, on parle beaucoup dans la nouvelle économie de la disruption, on parle beaucoup de la destruction créatrice chère à Schumpeter. Je crois que là, on a beaucoup de destruction, on n'a pas beaucoup de création. C'est pas très facile de détruire la vie politique française dans la mesure où on va pas y revenir là. Ce serait très long. Elle est dans un état, on le voit bien, Gérard Collomb qui s'en va pour voilà conduire sa petite entreprise locale et qui, au fond, déserte cette entreprise nationale qui est en voie de se constitution, qui a beaucoup de mal, qui est la République en marche. Et donc, la difficulté aujourd'hui pour Emmanuel Macron, alors même qu'il a été plutôt bien élu, c'est de construire une base, pas une base électorale, une majorité politique, tout simplement. Et c'est pour ça que déjà la défection de Bayrou a été un événement, à mon sens, majeur dès le départ. Et il aurait peut-être dû y prendre davantage garde. C'était pas facile, mais voilà. Donc je pense qu'on est dans les deux. On se rend compte soudainement de la fragilité dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est très inquiétant, en fait, parce que de cette situation peut tout naître et tous les aventuriers politiques peuvent s'emparer d'une situation aussi fragile. Voilà, je suis personnellement assez inquiet de la situation dans laquelle se trouvent les institutions.
Alors, Anastasia Colosimo et Brice Couturier, est-ce que vous faites, vous aussi, le constat de cette fragilité? Est-ce qu'il n'y a pas, a priori, un paradoxe, avoir quand même des présidents, puisque Sylvain Bourmeau a fait aussi référence à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qui sont dans un régime institutionnel où ils ont énormément de pouvoir, qui ont une majorité parlementaire qui est importante, donc a priori qui sont extrêmement solides, et pourtant que l'on découvre au fil des mois assez fragiles. Anastasia Colosimo.
Je dirais, pour répondre à cette question, qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème qui touche directement les institutions, c'est-à-dire que, à la fois, on peut effectivement considérer que l'instauration du quinquennat, le fait majoritaire, avec le renversement du calendrier électoral, devait conforter en fait la place du président. En réalité, elle a aussi soustrait la possibilité de créer une véritable opposition d'une part, et elle a enfermé aussi la majorité parlementaire dans une situation extrêmement complexe, où si la majorité parlementaire désobéit, on considère que ce sont des frondeurs, et si elle obéit, on considère qu'elle est complètement soumise. Donc en fait, cette espèce d'hyper pouvoir accordé par les récentes réformes qui ont touché la Ve République sont, vous voyez, un peu à double tranchant. Et quelque part, fragilise aussi un peu la position du président, qui en fait aussi devrait être quelque part en dehors de tout parti, et pas chef de la majorité parlementaire, ce qui a du coup un peu tendance à se confondre. Il y a une autre chose, et là je suis complètement Sylvain Bourmeau pour les trois derniers présidents que nous avons eu, c'est qu'il y a aussi la question de l'incarnation de la présidence. Je pense qu'on peut aujourd'hui assez clairement tous dire que Nicolas Sarkozy a constitué une très grande rupture dans la manière dont cette présidence était appréhendée, dont elle était incarnée, justement en amenant un tas de nouvelles choses, le côté managérial, le franc-parler, un tas de choses qui étaient en fait assez étranges pour ce statut de président de la République, qui était quand même encore un statut très monarchique, sacré, avec une vraie mystique, et tous les présidents avant Nicolas Sarkozy, même si avec Jacques Chirac, on peut dire que ça commençait un tout petit peu à décliner, incarnait un peu cette mystique de l'État, les deux corps du roi, etc.
Ce qu'a cherché à faire Emmanuel Macron.
Alors voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy a un peu dynamité ce système-là. Ensuite est arrivé François Hollande, qui a dit « je vais être un président normal », qui est quand même l'oxymore plus extraordinaire que moi j'ai jamais entendu. Je sais pas comment on peut être un président normal. Et Emmanuel Macron, voilà, il promettait qu'il allait justement revenir en roi, revenir en grand monarque. Le problème, c'est que revenir en grand monarque, c'est pas seulement des mots, c'est-à-dire qu'il faut aussi l'incarner. Et là, on a un problème d'incarnation dont on peut parler et qui est lié aussi, à mon avis, à beaucoup de choses. On critique énormément, on a beaucoup critiqué les partis, on a dit les partis, c'est arrivé, etc. La réalité aussi, et même si Emmanuel Macron est censé être le président des Français, il n'a pas de parti derrière lui. Par exemple, une chose qui est extrêmement frappante dans les crises qu'on connaît à chaque fois qu'il y a un ministre qui part, il n'y a pas d'équipe 2. Alors que pour tout président, il y a une équipe 2. Il y a en fait un fond de personnes compétentes, acquises. Et donc, à chaque fois qu'un ministre part, bah, on a un peu l'impression que le gouvernement vacille. Parce qu'on ne sait pas, on ne s'imagine pas par qui ils vont pouvoir être remplacés. Donc je dirais que c'est vraiment multifactoriel.
Couturier.
Oui, il y a un problème des ressources humaines à La République En Marche, c'est assez évident. On le voit effectivement à l'occasion de ces deux crises, parce qu'en fait, c'est une partie d'échecs qui se joue. Et je vais prendre cette métaphore pour décrire un peu la fonction de ces deux ministres d'État qui viennent de partir. C'était le fou dans un jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va chercher des pièces à travers le jeu de l'adversaire. C'est pas quelqu'un qui fait partie véritablement de votre équipe, c'est quelqu'un qui peut prendre des risques à un moment donné qu'on n'a pas vu. Nicolas Hulot, il avait refusé à Sarkozy, il avait refusé à Hollande, il a dit oui à Macron et puis il le quitte. Dans le cas de Gérard Collomb, c'est plus grave à mon sens, parce que là, il s'agit d'une tour. C'est-à-dire quelqu'un qui faisait vraiment partie depuis le début de l'équipe de Macron, c'était finalement le premier politique de grande envergure qui est cru en lui. Il avait son propre mouvement qui s'appelait les réformateurs au sein du Parti Socialiste, qui était exactement sur la ligne que Macron a incarnée par la suite, c'est-à-dire effectivement des gens modernisateurs, réformistes, de centre-gauche en réalité. Et qu'il le quitte surtout dans ces termes, c'est-à-dire alors que Macron lui a demandé de revenir sur sa décision, il la maintient, montre un le défaut d'autorité que Macron peut avoir rencontré à cette occasion, et puis il a perdu.
Alors qu'on lui a beaucoup reproché son autoritarisme.
Oui, alors là, c'est, son autorité est en défaut. Mais
c'est souvent pas contradictoire. On peut être autoritaire et manquer d'autorité. Autorité. C'est souvent le cas d'ailleurs.
Mais le paradoxe de notre situation, de la situation que nous vivons, c'est que faut pas oublier que Macron a été, on dit crise de régime, mais Macron a été élu précisément à la faveur d'une crise de régime. Il a été élu à la faveur d'une crise de régime parce que le système politique tel qu'il fonctionnait depuis 25, 26, 27 ans était tombé en crise, à savoir que l'alternance droite-gauche finissait par épuiser ses effets. Les Français n'en voulaient plus. L'électorat était fatigué de cette alternance entre les Républicains d'un côté ou les néo-gaullistes, ce que vous voulez, et le Parti Socialiste. Et Macron a été élu à la faveur de cette crise. Or, on pensait qu'il allait la résoudre, cette crise, et redonner une stabilité à nos institutions, et il semble qu'effectivement ce ne soit pas le cas.
Et justement, Brice Couturier, sur cette question, est-ce que vous y voyez l'effet d'une résistance plus forte qu'attendue de ce qu'on appelle aujourd'hui le vieux monde, et notamment des partis politiques traditionnels, ou bien est-ce que cette promesse d'un renouvellement et d'une recomposition, de toute manière, n'était pas crédible dès le départ du projet ?
Ben, c'est pas tellement le projet macronien qui n'est pas crédible, c'est l'opposition. Le problème, c'est qu'on pensait qu'à la faveur de ce renouvellement générationnel et politique personnel du pouvoir, on pourrait retrouver une opposition digne de ce nom. Or, en fait, ce qu'on voit, c'est un éparpillement de toutes sortes de populistes qui s'agitent au Parlement de manière parfois scandaleuse ou juste amusante. On voit une droite qui s'est radicalisée au point qu'on ne voit plus très bien ce qui la sépare de l'extrême droite, et une extrême gauche qui s'agit de manière ridicule, et puis le Parti Socialiste qui n'est pas renaît de ses cendres. Donc, si vous voulez, la conjoncture qui a donné lieu à la prise du pouvoir par Macron, elle est toujours là. On pouvait espérer qu'il y ait une recomposition de la vie politique autour de cette nouvelle donne du macronisme, et elle n'a pas lieu. Ce qui fait d'ailleurs que Macron aurait été en position de force, puisqu'en face de lui, il n'y a tout simplement rien.
Sylvain Bourmeau.
Oui, c'est le paradoxe. Je ne crois pas vraiment que la situation actuelle soit liée au fait que l'ancien monde, comme vous dites, soit reconstruit en partie, qu'il tienne des choses. Je crois plutôt que c'est l'incapacité d'Emmanuel Macron à construire véritablement une base politique qui le met dans cette situation. Au fond, Macron est en train de payer cher les conséquences du délitement de cette vie politique professionnelle française qui, d'un autre côté, l'a amené au pouvoir. C'est-à-dire que ce que disait Anastasia Colosimo sur les récentes réformes de la Ve République me semble très juste dans leur ambivalence, dans leurs effets contradictoires. Il faut ajouter à ça, évidemment, des effets de plus long terme qui ont renforcé la personnalisation de la politique, la télévision. Vous ajoutez à ça ce que le numérique a apporté à toutes ces questions. Tout ça a créé une sorte d'illusion assez largement partagée à la fois par les professionnels de la politique et par les professionnels du commentaire de la politique, qui consiste à penser que, au fond, on pourrait faire de la politique avec ces nouveaux instruments et en se dispensant de bons vieux outils comme les partis politiques, comme tout ce travail politique qui est fait sur le terrain, qui est construit. Et en fait, c'est pas parce que un certain nombre de partis politiques ont connu des crises, sont en train de connaître des crises très graves et sont dans des grands états de fragilité que pour autant le concept parti politique disparaît. Et je crois que c'est ça la grande erreur d'Emmanuel Macron. C'est l'erreur de tout le monde. Vous avez vu, plus personne ne veut faire des partis politiques, tout le monde veut faire des mouvements. Et l'idée, c'est aujourd'hui, il suffirait d'un mouvement et d'un leader charismatique et d'un bon usage des outils de communication de la télévision, de l'électronique pour gagner des élections. Alors peut-être que ça suffit effectivement, vu la fragilité de l'ensemble, pour gagner des élections. Là, on a la preuve que ça ne suffit absolument pas pour gouverner le pays. Et on en est là aujourd'hui.
Anastasia Colosimo, si on parle autant de ces crises, c'est sans doute aussi parce qu'elles atteignent directement la fonction du chef de l'État, en l'occurrence aujourd'hui Emmanuel Macron, mais précédemment François Hollande, qui a eu quand même un certain nombre de crises à gérer, Nicolas Sarkozy avant lui, ce qui veut dire que aujourd'hui, quand on est président de la République, on est directement exposé à la moindre crise politique. Est-ce que ça, à votre avis, ça vient de la façon d'exercer le pouvoir, ou bien est-ce que ce sont justement les institutions qui contribuent à isoler le chef de l'État et à le mettre en première ligne, si bien que il n'y a pas vraiment de fusible, par exemple, qui est là pour le protéger. Je pense par exemple à l'affaire Benalla. A priori, le ministre de l'Intérieur aurait dû servir de fusible, comme ça avait pu être le cas dans de précédentes affaires, sous de précédents septennats. En l'occurrence, c'était des septennats. Anastasia Colosimo.
Je pense que, de la même manière, ici, c'est un mélange des deux. Il est évident qu'il y a une question qui est liée à l'exercice du pouvoir, qu'il y a des présidents qui gouvernent de manière plus personnelle que d'autres. On sait maintenant d'Emmanuel Macron qu'il a une conception plutôt personnelle du pouvoir, qu'on a un Premier ministre qui est assez inexistant et qu'on a des ministres qui sont pour le coup effectivement extrêmement soumis au président et non pas au Premier ministre. Donc il est évident qu'il y a une question là vraiment de personnalité, quoi, puisque quand même bon, ce sont des personnes aussi, et donc c'est une manière d'exercer le pouvoir et d'interpréter personnellement aussi un peu les institutions. Ensuite, encore une fois, j'y reviens, je pense que c'est important d'en parler, de cette ambivalence justement qu'ont créé les réformes qui ont été d'ailleurs jugées à l'époque extraordinaires, progressistes, amenant, flexibilisant la démocratie, etc. Et qui ont en fait à la fois complètement affaibli le rôle du Parlement, qui déjà n'était quand même pas extraordinaire. Et je pense que c'est extrêmement mauvais d'affaiblir un rôle, le rôle du Parlement dans un régime semi-présidentiel. Ou sinon, dans ce cas-là, on passe à un régime présidentiel, ce qui n'a jamais été fait. Donc, il y a une espèce, en fait, d'entre-deux permanent. Donc, un affaiblissement du Parlement qui est très fort, que d'ailleurs, Emmanuel Macron veut encore augmenter, hein, dans la réforme constitutionnelle qu'il propose, qui avait été arrêtée, dont la lecture du texte avait été arrêtée par l'affaire Benalla.
Et qui reviendra en janvier au Parlement.
Voilà, exactement. Est encore un affaiblissement supplémentaire du Parlement. Donc à la fois un affaiblissement du Parlement et à la fois effectivement une surexposition du président qui devient, parce que il a la majorité pour lui, parce qu'il n'y a pas de Premier ministre, parce qu'il a toute la majorité parlementaire pour lui qui est soumise à lui, effectivement, on a l'impression que c'est lui qui prend absolument toutes les décisions. Et donc, il est, par conséquent, le fusible idéal et total. Donc, il y a un problème. Il y a véritablement un problème.
Brice Couturier, affaiblissement et du Parlement, finalement, et de la fonction présidentielle. Est-ce que ça...
Je pense que c'est une question de mauvaise dynamique, en fait, qui s'est instaurée.
Et qui pourrait être inversé à la faveur d'une réforme institutionnelle.
Bon, si on allait jusqu'au bout de la logique institutionnelle et si on faisait un système à l'américaine réellement présidentiel, on sait ce que ça veut dire. Ça voudrait dire priver le président de la République de son droit de dissolution. Le président américain n'a pas le droit de dissoudre le Congrès. D'ailleurs, mais alors, ça donne ce que ça a donné ces dernières années aux États-Unis, c'est-à-dire l'impuissance du président. Barack Obama et Bill Clinton, ces deux présidents démocrates de gauche, n'ont pas pu faire une politique de gauche parce qu'ils ont eu un congrès républicain en permanence. Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Parce que moi, ce que je voudrais vous faire observer, c'est qu'il n'y a pas simplement une crise de régime en France, une crise politique française. Il y a une crise de régime de toutes les démocraties occidentales. Très récemment, Dambisa Moyo, une théoricienne politique africaine que j'aime bien, écrivait la chose suivante. Partout, la faiblesse des démocraties libérales devient de plus en plus apparente. Or, regardez ce qui se passe autour de nous. On nous dit c'est parce qu'on a un régime présidentiel et que le Parlement est trop faible en France. Mais regardez en Allemagne. Angela Merkel n'arrive absolument pas à gouverner. La CDU vient d'élire comme président du groupe majoritaire au Parlement, au Bundestag, quelqu'un qui lui est parfaitement hostile et qui le proclame. Son ministre de l'Intérieur, il y a 2 mois, lui a fait une espèce de chantage. Bref, et regardez en Grande-Bretagne, le congrès du parti conservateur, Theresa May, est absolument ridicule. Tous les requins du parti sont en train d'essayer d'avoir sa peau. Donc vous voyez bien que partout, et alors ne parlons pas des États-Unis, partout, en fait, dans les démocraties libérales représentatives, le système parlementaire ne fonctionne plus, les électeurs sont mécontents, le système politique est en crise. C'est pas seulement une affaire française, c'est une affaire mondiale. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des partis, on voit des hommes politiques providentiels, populistes et autoritaires, Trump, Erdogan, Poutine, des autocrates, des Orban, qui eux sont applaudis par leur population.
Mais pardonnez-moi,
sont réélus à chaque fois.
J'ai l'impression
eux, ils n'ont pas de problème.
J'ai l'impression d'entendre exactement les mêmes analyses qu'on pouvait faire il y a 2 ans au moment de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Ça veut dire que rien n'a changé ?
Ben oui, apparemment. Si vous voulez, à chaque fois, on s'imagine qu'on va trouver l'homme providentiel qui va nous résoudre notre crise, qui va rétablir une autorité de l'État. Or, le problème, si vous voulez, que va rencontrer très vite Macron, c'est que quand les gouvernants perdent leur autorité, ils perdent aussi leur capacité à, comment dire en anglais, délivrer. C'est-à-dire mener les réformes, faire aboutir les projets qu'ils nous ont proposés pendant leur campagne électorale. Et ça, il n'y a rien de pire parce que, plus ils se montrent incapables, plus leur autorité est érodée, moins ils ont la possibilité de mettre en œuvre leur programme, et plus leur code dégringole, évidemment. C'est une espèce de cercle vicieux terrifiant. Et je souhaite que Macron trouve un moyen d'en sortir, parce que à ce moment-là, effectivement, qu'est-ce qui va nous rester ? Les options qui sont sur la table ne sont guère réjouissantes.
Anastasia Colosimo, ensuite, c'est
sur la alors, là où je voulais un tout petit peu corriger ce que je voulais dire, ou plutôt clarifier ce que je voulais dire, parce que Couturier, c'est que je pense qu'on s'en sort beaucoup mieux qu'un tas d'autres pays, mais vraiment infiniment mieux.
Et je pense que c'est
exactement. Et je pense que c'est exactement grâce aux institutions de la Ve République et qu'on lui doit énormément. Et je pense que en cet anniversaire des 60 ans, on doit plutôt se féliciter de la Ve République. Et en revanche, juste, ça n'empêche pas non plus d'en critiquer les manquements et les récentes réformes qui, d'ailleurs, ne sont pas trop dans l'esprit de la Ve en réalité.
Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Macron hier devant le Conseil constitutionnel pour le 60e anniversaire de la Ve République. Il dit notamment ceci, l'important est de conserver le cap et nos institutions nous le permettent. C'est leur grande force. Il ajoute, ça suppose de considérer la séparation des pouvoirs non comme une opposition frontale, mais comme une complémentarité féconde en organisant une dialectique des formes de représentation de l'intérêt général. Donc on voit bien à quel point Emmanuel Macron compte sur la
cinquième. Il parlait de la nomination du procureur de Paris ou dans, parce que c'est une drôle de conception.
Alors comme vous savez que c'était pas une conférence de presse, je ne crois pas qu'il ait été interpellé sur cette question-là.
Non, parce qu'on peut être en désaccord sur cette conception de la séparation des pouvoirs. C'est effectivement pas très... ça ne ressemble pas à ce qui prévaut aux États-Unis où cette séparation des pouvoirs est tranchée entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire.
Lui avance la solidité de la Ve République pour dire, voilà, c'est quand même, ce sont ces fondations-là qui vont nous permettre de passer le cap de ces crises.
Là-dessus, je serais en désaccord avec ce qu'a dit Anastasia et Brice, c'est-à-dire que je pense qu'au contraire, les institutions de la Ve République ont eu tendance, depuis longtemps maintenant, à amplifier un certain nombre de dérives qu'on constate par ailleurs dans l'ensemble des démocraties libérales. Les dérives qui tiennent à la personnalisation du pouvoir dont je parlais tout à l'heure, elles ont été amplifiées par le fait qu'on a eu une élection directe dans une seule circonscription d'un homme. Et ça, on n'a pas la même chose en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne, etc. Et donc, je crois, mais c'est pas le plus important ce soir dans notre discussion, là où en revanche je les rejoindrai, c'est dans l'idée que Le problème est beaucoup plus grave qu'une simple question d'ingénierie institutionnelle. Le problème n'est pas si c'était ça, s'il suffisait de changer 3-4 boulons, de changer un petit peu les institutions pour résoudre le problème, effectivement, on pourrait s'y atteler facilement, et puis on verrait pas la même chose dans d'autres architectures institutionnelles. Or, effectivement, cette crise, elle est assez généralisée. Et elle a plutôt trait aux transformations, me semble-t-il, de l'espace public dans un régime de communication qui a été profondément bouleversé. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure exactement, et je m'entretenais récemment pour AOC avec un grand journaliste américain, David Samuels, par exemple, de la disparition de la presse comme institution. Et c'est cet effondrement de la presse comme institution qui a, en grande partie, pas seulement, mais en grande partie, rendu possible l'élection d'un Donald Trump, par exemple. Et je pense que les responsables politiques n'ont pas pris la mesure de la gravité de ce qui se passait dans ces transformations, de la qualité du débat public, dans le fait que la communication politique maintenant prime absolument sur tout. Et ça n'a rien à voir avec les institutions, ça a à voir avec la manière dont la politique s'est professionnalisée, s'est spécialisée d'une certaine façon. Je pense que je ne suis pas contre la politique professionnelle, je pense qu'il faut la réinventer, la reconstruire. J'observe quand même que dans des pays dans lesquels les responsables politiques ne sont pas souvent des professionnels, la Suisse par exemple, les choses ont tendance à marcher un peu mieux.
Mais tout marche toujours mieux en Suisse.
Non, pas forcément, certainement pas même. Mais je trouve que de ce point de vue-là, c'est un exemple intéressant. Donc je crois que les deux écueils, c'est de penser qu'il suffirait de faire un peu d'ingénierie institutionnelle pour résoudre le problème, ou de s'en remettre à un homme charismatique, effectivement, pour résoudre le problème. Ça, c'est deux travers très, très français, et on est même encouragé institutionnellement à s'en remettre à un homme charismatique par l'élection au suffrage universel
direct. Mais historiquement
direct.
Aussi. Bon. En fait, le problème, oui. C'est que historiquement, le fondement de la 5e, c'est qu'on s'en est,
un coup
s'est,
d'état.
Bah, oui. On s'est remis, on s'en est remis à un homme qui nous a quand même sorti d'une très mauvaise passe.
Oui, en faisant un coup d'État en même temps.
Non, oui, donc, mais enfin... Aussi, non, alors je ne dirais pas qu'il a fait un coup d'État.
Les chercheurs l'ont bien établi.
Non, enfin, il y a un débat. Il a pas, c'est pas vrai. Bah, c'est-à-dire qu'on peut considérer
qu'il y a... Lisez le livre important de Brigitte Gaïti sur le sujet, sur les origines de la 5e République.
Oui, mais on peut tout à fait considérer que le référendum est plus légitime, non pas d'un point de vue strictement juridique, parce qu'il y a une justice au-delà du droit.
Ça n'a pas commencé par un référendum.
Mais en tout cas, moi, je suis... Même si c'était un coup d'État, je peux dire que je suis ravie du coup d'État du général de Gaulle. C'est-à-dire, si c'était à refaire, je refais
là,
sans problème.
Le problème là, c'est qu'on est dans une situation qui est peut-être moins spectaculaire que celle qu'a pu vivre le pays en mai 58, mais qui est aussi grave parce que elle est insidieuse. Elle s'est installée.
Il n'y a pas de guerre d'Algérie.
Mais bien sûr, elle s'est. Non, mais la situation de mauvais état de la politique, le mauvais état général, il s'est installé de manière insidieuse au fil des années et c'est très compliqué d'en sortir. Je ne sais pas par quel bout il faut prendre les choses, en fait.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Sylvain Bourmeau, pour dire qu'il y a un tas de problèmes et qu'on ne peut pas du tout réduire la question des institutions. Vraiment, je suis mille fois d'accord. Ensuite, pour revenir quand même à cette histoire de personnalisation et de figure, dont je pense que c'est quand même évidemment la pierre angulaire de la Ve République. Et ce n'est pas pour rien. Ce que demande aussi la Ve République, parce qu'elle a été fondée par le général de Gaulle, c'est quand même beaucoup de talent. C'est-à-dire que les institutions de la 5e, c'est quand même une Ferrari, quoi. On peut pas mettre dans une Ferrari un conducteur de 2 chevaux. Et ça compte
c'est
énormément,
pas gentil pour
je crois.
Macron.
Non, mais je crois que ça compte énormément.
Je ne sais pas si Anastasia Colosimo a laissé entendre que c'était un conducteur de 2 chevaux, encore qu'on a vu de mauvais conducteurs devenir de grands pilotes ensuite. Ne me demandez pas des exemples parce que je serais incapable de vous en donner. Brice Couturier, alors j'entends quand même finalement beaucoup d'inquiétude dans vos interventions ce soir par rapport au climat politique général, mais on peut se dire, bon, Emmanuel Macron, en tout cas s'agissant de la France, il n'est en poste que depuis 18 mois, il lui reste encore 3 ans et demi, peut-être pour essayer de restaurer un peu de confiance, sauf à se poser la question de savoir s'il peut aller au bout de son mandat. Est-ce que c'est une question qui peut sembler totalement farfelue, Brice Couturier ? Souvenons-nous, là aussi, qu'elle s'est posée à un moment donné avec François Hollande. C'est-à-dire, à un moment donné, après un certain nombre de crises, la question lui était même posée de savoir s'il irait, justement, au bout de son quinquennat.
Réponse d'Emmanuel Macron, je vais le citer. L'important ici, c'est de conserver le cap et nos institutions nous le permettent, c'est leur grande force. Oui, effectivement.
Vous avez remarqué que j'ai déjà cité cette phrase tout à l'heure.
Oui. Hein oui. Écoutez, elle répond à votre question. Hein. Les institutions de la Ve République permettent quand même un quinquennat. C'est peut-être insuffisant par rapport à ce qu'était la situation avant l'an 2000 où il y avait 7 ans. C'est d'autant plus intéressant qu'en réalité, si on regarde bien les programmes de ces deux prédécesseurs, on s'aperçoit qu'en réalité, ils avaient besoin de deux quinquennats pour arriver à mettre en œuvre l'ensemble des réformes qu'ils avaient promises dans leur campagne, au cours de leur campagne. Le problème, regardez aussi, c'est que depuis qu'on est passé au quinquennat, aucun président de la République française n'est parvenu à se faire réélire, ce qui pose quand même un sacré problème. Parce qu'effectivement, on va se retrouver très vite dans cette situation qui est celle des Américains, où les présidents ont là aussi besoin de ces 4 ans. Ils ont besoin de 8 ans pour arriver à aller jusqu'au bout de leur promesse. C'était un peu le cas avec Obama. Et s'ils ne l'ont pas, il y a un vrai désenchantement de la part de l'opinion. Là, c'est la même chose. Dans le cas d'Emmanuel Macron, on voit bien que si les réformes qu'il avait promises, qu'il a commencé à mettre en œuvre de manière assez modeste à mon goût, ne vont pas jusqu'à leur terme, la situation ne s'améliorera pas, le chômage restera épouvantable, le déficit public restera ce qu'il est et la France restera dans le peloton de queue des pays européens développés.
Anastasia Colosimo.
C'était apocalyptique là. Je pense qu'il faut réfléchir aussi, parce qu'on parle effectivement, c'est vrai que c'est une difficulté, à partir du moment où on instaure le quinquennat et qu'il est impossible pour un président de se faire réélire, il y a une question qui se pose, parce qu'on voit très bien que 5 ans c'est pas suffisant, parce que sur 5 ans, le temps qu'on s'installe, le temps qu'on fasse 3 trucs, on est déjà reparti en campagne pour le quinquennat d'après.
Encore passe à 7.
Alors... On peut repasser à 7. Enfin, je pense qu'il y a un tas de questions à se poser. Ce qui est évident, c'est que ça coince. Il y a un problème. Il y a un autre problème qui, moi, m'a beaucoup choqué dans l'imitation qu'on a pu avoir, d'ailleurs, du système américain, alors que notre système politique est très différent. C'est quand on a commencé à faire des primaires. C'est quand on a commencé à faire des primaires qu'on avait un président qui se demandait s'il allait, alors qu'il était président de la République et de tous les Français, s'il allait retourner dans son parti pour être candidat dans son propre parti avec d'autres candidats. Enfin bon, je pense que il y a un très mauvais agencement et il y a une analyse assez faussée de la fin des partis. Il faut faire de la politique en dehors des partis, etc. Et il y a à la fois, pour le coup, en même temps, une décrédibilisation totale des partis et en même temps, du coup, un poids des partis qui devient extrêmement fort parce qu'il y a une tribalisation un peu de la vie politique. Je pense que ce double mouvement crée aussi des aspérités tellement fortes qu'on n'arrive pas à trouver un peu un souffle de continuité. Le président devrait incarner justement ça, la continuité en dehors de toutes ces aspérités, et il n'arrive plus à l'incarner.
Je suis en désaccord total, mais c'est tout simplement parce que je suis favorable à un régime parlementaire classique et pas du tout à un régime semi-présidentiel comme on a en France. Je suis en désaccord total parce que je pense qu'au contraire, l'instauration des primaires en France était probablement la seule solution pour tenter de reconstruire des partis politiques en rapport avec une base. On sait que les partis politiques avaient perdu énormément de leurs adhérents. Une manière de réintéresser un premier cercle, en tout cas de Français, ceux qui sont les plus intéressés à la politique, et on a vu d'ailleurs que la participation primaire était assez importante, et ça vaut pour la gauche comme pour la droite, même s'il y a eu un décalage dans le temps, c'était la primaire. Qu'est-ce qui a fait que la primaire n'a pas marché? C'est pas la primaire, c'est ceux qui n'ont pas joué le jeu. C'est Emmanuel Macron qui n'a pas voulu aller à la primaire, c'est Manuel Valls qui est allé à la primaire, mais au deuxième tour ne s'est pas senti, ou après la primaire ne s'est pas senti engagé par cette primaire. De la même façon d'ailleurs que Gérard Collomb ne semble plus engagé par le fait qu'il ait rejoint Emmanuel Macron, et si je comprends bien, il va se présenter sans l'étiquette La République en Marche
campagne sans
à Lyon. Et donc on a un genre de conduite qui ressemble exactement à celle de Manuel Valls à l'époque, c'est-à-dire des formes de déloyauté politique qui sont en train de casser véritablement le sens collectif de la politique. Et ça, je trouve que c'est extraordinairement grave, parce que ça veut dire que la politique n'est plus qu'une histoire d'aventurier individuel, solitaire, dont Emmanuel Macron est une figure. Je voudrais juste m'arrêter sur une chose, parce qu'on parlait tout à l'heure du Premier ministre qui n'existerait plus, etc. Je pense que peut-être les choses vont se passer différemment. Je veux dire par là que peut-être que dans quelques temps, on se rendra compte qu'Emmanuel Macron aura été une sorte de coup d'épée dans l'eau. Et vous savez, quand vous donnez un coup d'épée dans l'eau, après, l'eau, elle redevient comme avant, en apparence. Ça ne veut pas dire que l'ancien monde va se recomposer exactement comme avant, mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui s'est passé là, cette semaine, avec Gérard Collomb ? Gérard Collomb est revenu qu'il occupait auparavant, c'est-à-dire, ou en tous les cas, il souhaite revenir à la place qu'il occupait avant, celle de maire de Lyon. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais c'est son souhait. Il veut réintégrer sa place d'avant. Eh bien, peut-être qu'on peut imaginer, d'une certaine façon, que Emmanuel Macron se fragilisant comme ça, son Premier ministre, qui organise la passation de pouvoir en tant que ministre intérimaire de l'Intérieur avec Gérard Collomb, sans visiblement que l'Élysée soit au courant, semble prendre de plus en plus de poids et d'envergure. Et une manière pour les choses de revenir à la normale serait que Édouard Philippe prenne le leadership sur la droite, puisqu'on voit que Laurent Wauquiez est au fond... un certain nombre de gens de droite se rendent compte que c'est peut-être pas la bonne personne pour gagner une élection. Je serais pas surpris que les choses reprennent leur place comme ça et qu'on assiste au fond à un fonctionnement normalisé, routinisé, ce qui serait pas forcément la plus grave des choses, parce que une droite par Gérard Philippe
et une gauche menée par Philippe qui
pourrait gagner une élection et justement permettre.
C'est le moment où on découvre que Sylvain Bourmand en fait est un conservateur.
Non, et pourrait permettre à la gauche de se reconstruire le temps de l'exercice du pouvoir de ce mandat par la droite.
En tout cas, on va isoler cette analyse et puis on verra si d'ici quelques mois vous avez raison ou pas, Sylvain Bourmand. Je voudrais juste terminer par ce que vous reveniez sur le départ de Gérard Collomb. Ça n'a pas été le seul départ. Cette semaine, Brice Couturier, Manuel Valls a quitté l'Assemblée nationale et est allé lui aussi faire campagne pour essayer de conquérir la mairie de Barcelone. Est-ce que ça n'est pas aussi le signe, au-delà alors de la loyauté ou de la déloyauté, que c'est dans les métropoles aujourd'hui que le véritable pouvoir, en tout cas les plus grandes marges de manœuvre en termes de pouvoir existent, quand on regarde ce que fait Martine Aubry à Lille, Alain Juppé à Bordeaux, Xavier Bertrand qui est à la tête de la collectivité du Nord est quand même en train d'acquérir là aussi une dimension qu'il n'avait jamais eue peut-être auparavant. Brice Couturier.
Oui, effectivement, Gérard Collomb aime Lyon, c'est une belle ville. Édouard Philippe aime Le Havre, ce qui est une très belle ville aussi. Et Manuel Valls aime Barcelone, qui est une ville magnifique. Les politiques aiment les villes et ils les aiment surtout quand c'est des positions de repli parce qu'ils ont compris qu'il y avait des problèmes sévères à l'échelle nationale, à Paris, et préfèrent aller dans des jolies villes pour en devenir maire. Je peux comprendre, c'est une bonne idée. Dans le cas de Manuel Valls, ce que j'apprécie davantage, c'est l'idée qu'un homme politique français né en Espagne refaire une deuxième carrière en Espagne, je trouve ça assez magnifique parce que l'Europe, ça devrait être ça. On devrait connaître beaucoup plus de cas comme ça. D'ailleurs, je voyais tout récemment la presse allemande disant aux Français, s'il vous plaît, laissez-nous Macron parce que Macron, c'est le seul homme politique d'envergure en Europe qui tienne tête à Trump. Ménagez-le. Je me disais, peut-être que Macron peut faire une carrière en Allemagne. Après tout, il parle très bien allemand. Non, redevenons juste sérieux pour conclure parce que...
Bah, c'est très sérieux.
Non, la question que vous posiez au départ me paraît vraiment absolument central.
Ouais, il va falloir conclure.
J'y viens. Le problème, c'est que nous voyons, comme je le disais, dans l'ensemble de nos démocraties représentatives, parlementaires et libérales, une crise générale de l'autorité. Cette crise générale de l'autorité est d'autant plus dramatique qu'en face de nous, nous avons affaire à des pouvoirs autocratiques, semi-autoritaires ou autoritaires, je parlais d'Erdogan, de Poutine, etc., des gens qui sont extrêmement agressifs à notre égard, ou Trump, des gens qui sont extrêmement agressifs à notre égard, et si nous affaiblissons nos propres gouvernants, si nous affaiblissons nos institutions, nous serons incapables de répondre aux défis que ces gens nous posent. Or donc je pense qu'il faut, si on veut vraiment défendre la démocratie libérale, il faut défendre l'autorité de nos gouvernants une fois que nous les avons élus. Il faut cesser cette course à l'audience qui truque le jeu politique, des chaînes de télévision en continu qui font tourner des petites phrases et des ragots et qui nous détournent de l'essentiel, à savoir la vie politique réelle. Et je pense qu'effectivement, tant que nous n'aurons pas rétabli cette autorité, tant qu'on aura des Theresa May en but au Boris Johnson et des Angela Merkel
déstabilisées... On ne peut pas mettre le monde dans le même sac. On ne peut pas mettre Theresa May, Donald Trump, Erdogan et Poutine dans le même sac.
Non, c'est le contraire. Vous n'avez pas compris ce que je disais.
Pour résoudre la crise d'autorité, il faut d'abord commencer par résoudre la crise de légitimité, Brice. Il est là le problème numéro un.
Merci.
C'est le dernier mot.
Brice Couturier et Anastasia Colosimo d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez retrouver comme à chaque fois sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Guillaume Laguigné, mission réalisée par Alexandre Fougeron, avec à la prise de son ce soir Valentin Azan-Zielinski, Julien Dominck et Philippe Thibault.